Chapitre 5. L'histoire de Lady de la Cour et la manière dont elle venait de la raconter excitèrent tour à tour l'étonnement, la pitié, l'admiration et le mépris de Belinda. Étonnement de sa légèreté, pitié pour ses malheurs, admiration pour ses talents et mépris pour sa conduite. Elle pensa ensuite à la promesse qu'elle avait donnée à Lady de la Cour de ne pas l'abandonner à la merci de sa femme de chambre. Elle tremblait en réfléchissant à l'état cruel de Milady. Sa gaieté affectée lui faisait peine à voir. Elle était effrayée de l'idée d'être sous la direction d'une femme qui n'avait pas su se diriger elle-même. Elle ne put s'empêcher de faire tacitement des reproches sévères à sa tante de l'avoir lancée dans le monde avec un pilote si peu sûr et si imprudent. Il lui paraissait évident que sa tante connaissait bien la conduite de Lady de la Cour. Et alors, comment expliquer la sécurité avec laquelle elle l'avait placée auprès de Milady? Belinda se forma des idées, des jugements à elle pour la première fois de sa vie. On fait un bien bon cours de morale lorsqu'on a toujours devant les yeux une victime de l'immoralité, de l'inconséquence et de la folie du monde. Les exemples des malheurs ou le vice extrême sont aussi puissants pour donner horreur du vice que les exemples du vice triomphant, heureux et tranquille, sont pernicieux. Belinda sut profiter de ces grandes leçons. Au premier abord, Lady de la Cour paraissait être la plus heureuse personne du monde, mais ce bonheur s'évanouissait durant un examen plus approfondi. Combien cependant elle était enviée. Mistress Stanhope aurait été charmée, malgré les défauts, les vices même de Lord de la Cour, de voir sa fille unie à sa seigneurie. Mais les titres du vicomte, le rang de père, ne suffisaient pas à Belinda pour former le bonheur. Si Lady de la Cour, disait-elle, avec tout son esprit, toutes ses grâces, avec sa beauté, sa fortune et son rang, n'a pas pu trouver le bonheur dans une vie dissipée, pourquoi espérerais-je d'arriver à un autre but en suivant le même chemin? Elle résolut d'imiter Lady de la Cour dans ses bons moments et de suivre un autre plan de vie en général. Elle ne voulut dépenser que très peu de choses pour sa toilette. Elle avait à elle 100 livres sterling de revenus. Outre cela, sa tante, qui voulait qu'elle brillât à la cour, lui avait envoyé 2 billets de 100 livres sterling chacun. Sa tante lui disait qu'il serait temps de lui rendre ses 200 guinées lorsqu'elle serait mariée, ce qui ne pouvait beaucoup tarder, d'après tout le bien qu'on lui disait d'elle. « Ne m'oubliez pas, ajoutait Mistress Stanhope, auprès de mon ami Clarence Hervey. Parlez-moi donc dans votre première lettre. » « Je viens de voir un homme qui m'a assuré qu'il avait 10 000 sterling de rente. » Belinda écrivait à sa tante le changement de ses projets, sans lui dire toutefois ce qu'il avait déterminé. Elle lui mandait qu'elle ne voulait pas toucher les 200 livres sterling. Madame France entra au moment où elle allait envoyer sa lettre à la poste. Ce ne fut pas la vue des habits charmants de la marchande de mode qui fit changer ses résolutions, mais bien la raillerie piquante de Lady de la Cour. Pourquoi, lui dit celle-ci, après avoir entendu tous ses raisonnements sur l'indépendance et sur l'économie qui pouvait seule la lui assurer, pourquoi tout cela? Tous vos discours sont fort beaux, mais voulez-vous que je vous le traduise en bon français? Vous avez été mortellement blessé des réflexions satiriques de quelques jeunes étourdis. Clarence Hervey est du nombre, et au lieu de les punir, vous avez pris le sage et généreux parti de vous punir vous-même. C'est fort bien raisonné. Pour persuader un jeune inconsidéré que vous ne pensez pas à l'attirer dans vos pièges, que vous n'avez aucun désir de toucher son cœur et qu'il n'a et n'aura jamais d'influence sur votre manière d'être, vous vous déterminez très judicieusement à la première leçon qu'il semble vouloir vous donner, à changer tout à fait votre toilette, vos manières et votre caractère et à lui dire aussi clairement que possible « Vous voyez, monsieur, qu'un mot suffit au sage. J'ai cru voir que vous n'aimiez pas les parures trop riches et que la coquetterie ne vous plaisait pas. Comme je ne me parais et comme je n'étais coquette que pour vous plaire, je vais donc laisser et pompons et coquetterie de côté jusqu'à ce que j'ai réussi à trouver votre goût. J'espère, monsieur, que vous devez être satisfait de la simplicité de mes manières. » « Croyez-moi, ma chère, Clarence Hervey se connaît en simplicité aussi bien que vous et moi. Tout cela pourrait être bon s'il ne savait pas que vous avez entendu la conversation. Mais comme il sait fort bien que c'est à vous-même que s'adressaient ses observations critiques sur la famille Stanhope, ne voyez-vous pas qu'il est impossible qu'il n'attribue pas un changement si subit à l'effet de ses remontrances et, par conséquent, aux causes dont je viens de vous parler ? Laissez donc une telle conduite à votre tante Stanhope ou bien à moi, et votre conscience sera toujours pure. Allons, venez, et souvenez-vous qu'il faut être habillé raisonnablement pour aujourd'hui. » Lady de la Cour choisit quelques parures, et Mistress Frank sortit. Clarence entra. « Ah, bonjour, Clarence. Combien nous avons regretté de ne pas avoir au bal l'aimable serpent que nous y attendions. » Ces paroles rappelèrent à Clarence la conversation qu'il avait eue avec la prétendue Lady de la Cour chez Lady Singleton et l'embarrassèrent d'abord beaucoup. Belinda ne put s'en apercevoir, elle alla vers le fond de la chambre regarder quelques morceaux de musique. Elle lut avec tant d'attention qu'elle n'entendit ou parut n'entendre rien de la conversation de Lady de la Cour avec M. Hervé. Au bout de quelques minutes, Lady de la Cour vint la trouver et lui dit « Miss Portman, je dois vous prier de faire le bonheur de M. Clarence Hervé. Il est passionné pour la musique, pour mon malheur, car dès qu'il voit ma harpe, il me fait les reproches les plus piquants sur ce que je l'ai abandonné. Il vient de me promettre que d'ici à un mois, il ne m'ennuierait plus de ses lamentations si vous aviez la bonté de nous jouer un petit air. Je vous jure, Clarence, que Belinda pince à merveille de la harpe. Elle va vous charmer. » Milady devrait ne pas me prodiguer des éloges dont M. Clarence Hervé sait que je n'ai pas besoin. Vous savez bien, Milady, que Miss Portman et ses perfections sont connues. Ignorez-vous qu'elles ont été annoncées comme on annonce de belles mousselines? Le ton dont ces paroles furent prononcées fit une grande impression sur Clarence et il commença dès ce moment à croire qu'il était possible que la nièce de Mistress Stanhope ne fût pas aussi affectée qu'il le pensait. Quoique sa tante l'ait vantée avec outrance, se dit-il, il ne faut pas la punir des fautes de sa tante. Étudions son caractère et je la jugerai. Quelques visites interrompirent ses réflexions, mais leur effet n'en fut pas moins prompt. Plus il trouva Belinda franche et naïve, plus il l'aima et plus il s'efforça de lui plaire. Il fut gai, aimable et spirituel, mais il vit avec peine que Miss Portman, enjouée avec tout le monde, n'était froide et réservée qu'avec lui. Il revint le lendemain de meilleure heure afin de trouver ses dames seules. Malheureusement, Lady Delacour faisait sa toilette et il ne put entrer. Il demanda à son amie Mariette où était Miss Portman. Elle ne sera pas présentée à la cour aujourd'hui, dit Mariette. Mistress France n'a pas apporté son habit. Sur les 2 ou 3 heures, il revint. Lady de la cour était partie. Et Miss Belinda? Elle est aussi sortie. Clarence descend et entend, pour son malheur, le son de la harpe de Belinda. Il sort et se promène dans la place jusqu'à ce qu'il voit paraître la voiture de Lady de la cour. Il lui donne le bras pour sortir de sa voiture et la conduit chez elle. Pourrais-je obtenir de Milady une audience de quelques minutes lorsqu'elle en aura le loisir? Je n'ai jamais de temps à moi, repartit Lady de la cour. Mais si vous avez quelque chose d'intéressant à me dire, comme je m'en doute bien, venez ce soir avant tout le monde et attendez-moi patiemment dans le salon de musique. Je pourrai alors vous accorder une audience particulière. N'allez pas cependant appeler cela un rendez-vous. » Clarence Hervé ne manqua pas de se rendre le soir bien avant l'heure indiquée. Il attendit. « Ne vous ai-je pas donné le temps de composer un beau discours ?» dit en entrant Lady de la cour. « Mais faites-le cependant le moins long que vous pourrez, à moins que vous n'aimiez mieux qu'il soit entendu de Miss Portman, car elle doit descendre dans 3 minutes. » « Je vous dirai en peu de mots, ma chère Lady de la Cour, que je voudrais faire ma paix avec Miss Belinda de Portman. Pouvez-vous, voulez-vous m'aider? Je suis si fâchée qu'elle ait entendu cette plate conversation de chez Lady Singleton. » « En êtes-vous vraiment fâchée? Non, dit Clarence, je me réjouis au contraire de ce qu'elle m'a donné lieu de changer l'idée que je m'étais précipitamment formée sur le caractère de Miss Bellend. Je ne la crois plus, à présent, ni fausse ni affectée. Voulez-vous avoir la bonté, Milady, de lui dire, de ma part, combien je suis revenue de mon injustice et combien je blâme ma témérité ? De grâce, répondit Lady de la Cour, apprenez-moi cela par cœur, car jamais je ne pourrai m'acquitter de votre commission. Mais, si vous voulez, je lui expliquerai vos sentiments à ma manière. Ne pourrais-je pas lui dire de votre part ? Ma chère Bellend, Clarence Hervé m'a chargé de vous dire qu'il est convaincu que vous êtes un ange. Il me semble que le mot « ange » est si expressif qu'il renferme tout ce qu'on peut désirer de part et d'autre. Mais, dit Hervé, ne craignez-vous pas que Miss Portman prenne cette déclaration pour une moquerie ? Vous voudriez donc qu'elle la prît pour une chose sérieuse ? Lui demanda Lady de la Cour en souriant. Ah ! Je ne savais pas encore cela. Mais, Milady, vous êtes bien prompte à interpréter une plaisanterie. À vous entendre, je vous prierai de faire à Miss Portman une vraie déclaration d'amour. Et pour suivre cette romanesque interprétation d'une simple politesse, ne faudrait-il pas que je me misse sur les rangs pour obtenir la main d'une jeune femme à qui je trouve seulement de la dignité dans l'esprit et de la candeur dans le caractère ? Au reste, je m'en rapporte absolument à votre discrétion. Mais, reprit Lady de la Cour, vous avez peut-être aussi trop de confiance à ma discrétion en me chargeant de la commission si délicate de dire à une jeune personne qui m'est confiée qu'un jeune homme qui a fait profession d'être un de mes admirateurs est amoureux d'elle et cependant ne prétend pas même donner l'idée de mariage. « Amoureux ? » s'écria Clarence Hervé. « En nommant Miss Portman, je n'ai parlé que de mon estime et de mon admiration. » « C'est assez, dit Milady, c'est assez de votre estime, et Miss Portman est libre, et vous aussi, je pense. À propos, comment donc s'arrange dans votre tête votre estime et votre admiration pour Bellend avec l'admiration que vous avez pour Lady de la Cour ?»« À merveille, Milady, répondit Clarence, car jamais il ne m'est venu à l'idée de comparer une jeune provinciale avec la charmante Lady de la Cour. » Il y a des gens d'esprit qui auraient peut-être pensé à épouser cette jeune personne, mais mon heure n'est pas encore arrivée, Dieu merci. Dieu merci est fort bien dit, Clarence, car un homme marié est perdu pour le grand monde. Pas toujours, reprit-il, et... Un violent coup de marteau les avertit que la compagnie arrivait pour le concert. Vous me promettez de faire ma paix avec Miss Portman, n'est-ce pas, Milady ? « Oui, je ferai votre paix, et vous verrez encore Bellend de vous sourire, à condition toutefois. Mais nous parlerons de cela une autre fois. »« Non, non, à présent, Milady, » dit Hervé en lui prenant la main. « À quelle condition ?»« La voici, nous devons aller ensemble à la cour pour le jour de la naissance du roi, et nous voudrions avoir des chevaux un peu plus jolis que les miens. Je sais que Bellend désire secrètement, comme moi je désire ouvertement, d'avoir ceux que nous avons vus ensemble à Tattersall's. Mon cher et tendre époux m'a dit fort poliment qu'il n'y fallait pas penser, et cependant j'y pense toujours. Milady et Miss Portman ne doivent pas former un vœu que je ne me fasse toujours un devoir de remplir. Puisse cette bagatelle, ajouta-t-il en lui baisant la main, ratifier mon traité de paix. Quelle audace ! Mais ne voyez-vous pas tout le monde entrer ? S'écria Lady de la Cour en retirant doucement sa main. Cette feinte colère prouvait bien qu'elle n'était point fâchée que Clarence Hervé parût en public un de ses adorateurs. Elle venait d'éclaircir adroitement ses doutes sur les vrais sentiments d'Hervé pour Bellend. Elle était certaine qu'il ne pensait pas, pour le moment, à s'unir à Miss Portman. Mais elle voyait bien aussi que, s'il fallait qu'il se mariât, ce serait avec Bellend. Comme tout cela ne dérangeait point ses projets, Lady de la Cour était contente.